Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos investigations tragiques dans l'univers toujours plus étonnant de la Sharksploitation. Alors oui, l'épisode devait sortir en septembre, j'ai encore un petit peu de retard, mais avec la nuit nanarlande, vous doutez bien que ça a été assez agité. En tout cas, nous retrouvons nos amis requins, pas d'inquiétude. D'autant que j'annoncerai à la fin de l'émission une petite surprise, un petit projet pour fin octobre d'une séance à Paris dont votre podcast favori sera partenaire. Je vous en reparle un petit peu plus tard. En ce début d'automne, l'actualité du film de requin est toujours aussi active. Black Demon vient tout juste de sortir chez nous et plusieurs petits films fauchés tels Doll Shark de Brett Kelly ou Jurassic Shark 2 Apocalypse de Mark Polonia ont eu les honneurs du Paris Shark Festival, sachant d'ailleurs que l'infatigable Polonia vient de nous sortir le trailer d'un Jurassic Shark 3, Sivenge, absolument affreux, et d'un Cocaine Shark qui vient tenter de grappiller les miettes du succès surprise de Cocaine Bear. Mais on a aussi nos amis de The Asylum qui ne restent pas inactifs, puisqu'on a vu popper les bandes-annonces de Megalodon 3, The Frenzy, avec cette vieille fripouille d'Eric Roberts, qui n'a l'air d'ailleurs de faire aucun effort, comme le film, et qui ne présage rien de bon, tant les deux précédents opus de la saga étaient nullissimes. Et puis un Blind Water d'Anthony Seferante, l'auteur de Sharknado, avec ses sempiternels vacanciers à la dérive cernés par des requins, qui a l'air encore moins original et moins imaginatif que le Sharkwater qu'on avait déjà traité dans l'émission précédente. Et je vous parle même pas de 2025 Armageddon qui vient de sortir chez eux et qui est un véritable pot pourri de toutes les productions The Asylum qui nous envoie sur Terre les monstres de toute leur franchise de Mega Shark à Sharknado et que j'ai pas encore eu le courage de m'infliger. Donc, tout ça pour vous dire qu'on n'en a pas fini avec les films de requins. Mais pas seulement les films, parce que j'ai découvert l'existence d'un projet beaucoup plus intéressant, une pièce de théâtre à Broadway, qui avait été faite d'abord à Londres, qui s'appelle The Shark is Broken de Ian Shaw et Joseph Nixon, et qui imagine le trio central des Dents de la Mer coincé sur son bateau en plein tournage du film, et qui doivent lutter contre l'ennui, les problèmes d'ego, de tournage, et un requin mécanique qui ne veut pas marcher. Ça a l'air vraiment bien, avec des dialogues enlevés, d'autant que Ian Shaw n'est autre que le fils de Robert Shaw, qui va jouer aussi le rôle de Quint et qui s'est fait vraiment la tête de son père d'une façon bluffante. Les deux autres comédiens incarnant Dreyfus et Scheider sont eux aussi assez ressemblants, ce qui donne un ensemble qui fait très 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 envie. Comme quoi l'héritage des Dents de la Mer est littéralement increvable. Mais bon, nous ne sommes pas aujourd'hui ici pour parler des Dents de la Mer, ça a déjà été fait, mais de deux autres films, un peu moins enthousiasmants, mais pas non plus les pires de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans l'émission. Ces deux films sont Alerte aux requins, alias Beyond the Reef, ou Shark Boy of Bora Bora, sorti, alors c'est pas très clair, visiblement en 1979 aux États-Unis, en 1981 chez nous, d'un certain Frank Clark, dont l'existence même reste un mystère, nous en reparlerons. Et puis de la vétérante Misty Tolley en 2015, un zombie shark, connu aussi sous le nom de Shark Island, avec des requins morts-vivants qui viennent taquiner des vacanciers. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
Per il ciclo Blue Moon.
Perché fa quello che faccio io?
Perché tu sei il primo che l'ha toccato gentilmente, e se lo ricorderà per tutta la vita.
Dovete diventare amici tu e Diana, e lei tornerà presto a visitarci.
Una promessa mai dimenticata.
Non mi riconosci? Sono Ticoi.
Da bambini era amicizia, da adulti è amore. Manitou, uno squalo ribelle, un indigeno selvaggio, un fiore di ragazza. Mercoledì alle 20:30 su Italia 1.
Oui, alors ce film, il est tellement obscur et un peu oublié que, pour trouver une bande-annonce de présentation, j'ai dû me rabattre sur un passage télé italien sous le nom de Manitou. C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé pour pouvoir le présenter. Nos éditeurs vidéo ont du talent, à défaut d'avoir des scrupules. Ah bah tiens, tenez, ceux de chez Antarctic ou Prisme Vidéo. Un requin gigantesque dans une gerbe de sang qui jaillit en dévorant littéralement le titre. Avec cette accroche définitive, le plus féroce des prédateurs. Si ça vous vend pas du rêve ça, ça va être trop chamé. Alors autant vous dire que ça va être la surprise quand on enfourne la galette dans le lecteur, parce qu'on découvre une histoire d'amour polynésienne entre une jeune fille de bonne famille revenue des États-Unis sur son île de Bora Bora et un beau pêcheur local un peu sauvage qui depuis l'enfance apprivoise un bébé requin devenu adulte. Oui, les plus fidèles d'entre vous ont reconnu Tikoyo et son requin, un film d'aventure exotique de Folco Quilici de 1962 que nous avons traité dans l'épisode 27. Alors vous allez me dire pourquoi faire le remake de ce vieux film des années 60. Eh bien il faut savoir qu'en 1979, la mode était aux histoires d'amour polynésiennes, suite au succès du Lagon Bleu, un film un petit peu oublié de nos jours, mais qui révèle à Brooke Shield et qui décrit les amours de deux enfants échoués seuls sur une île paradisiaque. Un film assez irregardable de nos jours tant il est d'une grande niaiserie et d'une très grande complaisance à montrer la nudité de mineurs. Mais, comme dirait Christine Goutin, qui suis-je pour juger d'un film qui montre l'amour charnel entre deux cousins ? Enfin bref, à l'époque où les tropiques font rêver, eh bien ce film fait quand même 1,5 million d'entrées chez nous, et pour ce qu'il a coûté, eh bien s'avère extrêmement rentable, ce qui forcément donne des idées à tous les autres producteurs, notamment Raffaella De Laurentiis, digne fille de son père, le mogul italien Dino De Laurentiis, à qui on doit le King Kong de 76, Orca, Conan le Barbare ou Dune de David Lynch, son seul film réussi. Non, quittez pas le podcast, c'est pour rire. Raffaella donc qui se lance dans le business et qui se dit qu'un petit film d'aventure exotique avec de beaux jeunes gens et des beaux paysages, eh bien, ça doit être facile à faire. Et donc jette son dévolu sur Tikoyo et son requin. Alors, c'est pas clair, hein, parce qu'en fait, on sait pas vraiment si c'est un remake du film de Folco Quilici, tout bêtement parce qu'il n'est jamais cité dans le générique ou dans les remerciements. Non, le film cite le roman original de Lantillet et Clément Richer comme source de l'histoire, mais pas le film de 62. Or, le livre de Clément Richer se passe dans les Antilles, est assez différent d'une simple petite histoire d'amour joyeuse au milieu des palmiers, et le film, on va pas se le cacher, il ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à son modèle de 62. Même si, on le verra, entre les deux, il y a eu les Dents de la Mer, donc puisqu'on a un requin, tant qu'à faire, autant en profiter.
Tu m'as dit que c'était un requin-tigre, comme celui qui m'avait attaqué?
Ouais, c'en est un.
Mais il n'y a pas de rayures sur son dos.
Certains requins-tigres perdent leurs rayures quand ils grandissent.
Vous devez être Manadou des îles Hawaï?
Oui, c'est bien moi, Manadou, en effet. Tikoyo m'a parlé de toi. Tu es la petite fille de l'éleveur des perles de culture?
Oui.
Heureux de te connaître, Diana.
Bonjour.
C'est bien que tu sois venue. Le requin veut que tu sois son ami.
Comment le savez-vous?
C'est lui qui me l'a dit.
Les requins ne parlent pas et ils sont dangereux.
Pas celui-là. Petit requin. Petit requin, Diana aussi veut être ton amie. D'accord?
Oui.
Elle reviendra bientôt nous voir.
On raconte que les esprits des morts habitent parfois les requins. Celui-là est bon. Un grand esprit un jour viendra vivre en lui.
Alors, je vous rappelle l'histoire, même si la logique voudrait que vous réécoutiez le podcast 27, parce que moi ça me ferait des écoutes. Mais bon, nous sommes à Bora Bora, où un jeune pêcheur de perles, Tikoyo, est amoureux de la belle Diana, fille d'un marchand local, et est élevé par Manidou, un vieux hawaïen un peu mystique. Lorsqu'un requin-tigre vient attaquer la petite communauté et est tué par le pêcheur, Tikoyo recueille son bébé requin, à qui il donne d'ailleurs le nom de Manidou, d'autant que celui-ci meurt peu de temps après, et que d'après une tradition polynésienne, lorsqu'un sage meurt, il se réincarne dans un esprit animal à proximité, donc Manidou part dans le corps du requin. Les années passent, les enfants grandissent et deviennent de beaux jeunes gens. Diana part aux États-Unis faire des études et quand elle revient, c'est pour trouver Bora Bora bien transformé. Son frère est devenu un affairiste prêt à vendre l'île à tous les promoteurs, alors que son amour de jeunesse Tikoyo est lui resté un humble pêcheur mais qui a découvert le secret des perles noires, aidé par son ami requin. Cela pourrait être une simple histoire d'amour si les magouilles du frangin n'entraînaient pas rapidement des attaques de Manidou sur tous ceux qui s'en prennent à la communauté traditionnelle. Alors, je vais pas le cacher, dans un premier temps, j'abordais ce film avec une certaine méfiance. Au vu des descriptions, je m'attendais à un film indigeste alternant les plans touristiques dans les îles, une romance filandreuse sous les palmiers, d'autant que j'avais bien aimé le caractère réaliste du film original, et que tous les visuels le puaient la fin des années 70 et le début des années 80 à plein nez. Alors, je dirais pas que le film est un chef-d'œuvre oublié, hein. Bien au contraire, c'est quand même une œuvre qui accuse son âge, et avec une réalisation qui est bien plus qu'approximative. Mais il a un certain charme, et il est essentiellement sauvé par des scènes sous-marines vraiment pas mal. Et ces scènes sous-marines, eh bien, elles sont faites avec des vrais requins. Des vrais requins qui ont été dressés par Ramon Bravo, un spécialiste mexicain dont on avait parlé pour le film Tintorera, et qui était à l'époque la personne qu'on appelait systématiquement quand il fallait faire des scènes avec des requins, notamment dans les James Bond. Et bah, c'est assez réussi parce que on voit Tikoyo et Diana qui nagent de concert avec un vrai requin-tigre, qui joue avec littéralement, comme dans un documentaire animalier, et puis lorsqu'il s'agit d'attaquer les méchants promoteurs ou les hommes de main du frangin à Diana, eh bien on a un requin qui vient carrément heurter les plongeurs dans une gerbe de sang, c'est assez réaliste, et on a quelque chose qui rend vraiment bien. Alors après, à côté de ça, on a de longs plans touristiques sur les danses polynésiennes, sur les couchers de soleil, sur les vagues. Bon, Bora Bora, c'est magnifique, et puis à l'époque, on voyageait pas tant que ça, et découvrir ces grands paysages, ça vous faisait déjà un film. D'autant que ce film est accompagné par une assez belle musique de Francis Lai, excusez du peu. Une petite ritournelle à l'orgue synthé, un peu éthéré, que vous entendez en fond, avec des arrangements plutôt sympas, et même des vocaux de Nicole Croisil. Donc oui, c'est un peu suranné, mais ce n'est pas pour autant un film déplaisant. C'est juste maintenant un film un peu passé de mode. En parlant de mode, le film récupère au vol la mode des Dents de la Mer, parce que donc le film de Spielberg est sorti 4 ans avant, et donc tant qu'à faire un film avec un requin, on va lui donner un petit côté Dents de la Mer. Donc comme Manidou, le requin apprivoisé de Tikoyo peut être possédé par l'âme de l'ancien chaman slash vieux sage polynésien, s'en prend aux investisseurs qui veulent ruiner l'île et en faire un paradis touristique, et bien ceux-ci vont dégainer l'alias de billets à celui qui ramènera la tête du requin au bout d'une pique.
Le requin de Tikoyo a tué 3 hommes. C'est à lui de tuer ce requin maintenant, ça suffit.
Je ne sais pas
si
où il est.
S'il est dangereux, il faut s'en débarrasser.
On veut avant demain matin ou c'est nous qui le trouverons. T'as compris?
Donne-lui des barbituriques si tu ne veux pas qu'il souffre.
On va pas attendre qu'il y ait des morts dans toutes les familles.
C'est ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on est là. Il faut tuer le requin.
Un peu qu'on va le tuer, tous au lagon, avec les harpons.
Comment savez-vous que c'était Manadou? Un autre requin-tigre a très bien pu entrer dans le lagon.
C'est Monsieur Jeff qui a dit que c'était un requin qui avait attaqué les plongeurs.
Ouais, c'est sûr que c'est lui.
Le vieux Manadou était un homme juste et bon.
Tu parles? Je l'ai connu, moi. C'était un vieux fou, tout comme toi.
Monsieur Jeff a dit qu'il payait les bateaux et les filets.
Oh, l'isola, finissons-en!
Et donc, on a des scènes où on voit des pêcheurs qui essaient de traquer des requins, notamment en frappant l'eau avec des pierres attachées à des lianes pour les rabattre dans une nasse. Il y a aussi des scènes de pêche au harpon qui semblent plutôt réalistes, tellement réalistes, je pense qu'ils ont sacrifié des vrais requins pour les faire, mais qui arrivent parfaitement à leur objectif, c'est-à-dire fournir un spectacle qui est à la fois donc une histoire d'amour polynésienne et un petit film où les requins n'ont qu'un rôle périphérique, mais où il y a quand même un petit peu de suspense avec les attaques, et donc ces scènes sous-marines qui sont vraiment réussies. Le film a eu le droit à une sortie ciné aux États-Unis, sous le double titre donc Beyond the Reef ou Shark Boy of Bora Bora, sortie assez discrète, même si on trouve pas mal de commentaires de gens qui ont encore un souvenir de ce film qu'ils ont pu voir enfant, probablement plutôt à la télévision, puisque le film serait pas mal passé à la télévision aux États-Unis et en Italie. En France, peut-être est-il passé à la télévision, il y a une VF, mais comme je le disais en préambule, le plus facile pour le trouver, c'est de traquer ses DVD à 1€, avec des requins agressifs et des grosses gerbes de sang, qui essaient de le faire passer pour un pur produit de Sharksploitation. Non, c'est pas du tout un produit de Sharksploitation, même s'il rentre quand même un petit peu dans notre catégorie, parce qu'il y a des attaques de requins, et que c'est même la partie la plus intéressante du film.
Tikoyo, tu l'as encore, ton requin?
Oui. Notre requin.
C'est notre requin que j'ai vu hier soir?
Comment le saurais-je? Tu n'as qu'à lui demander si tu veux le savoir.
tu le gardes avec toi dans la maison ?
Non, seulement à l'heure des repas.
Alors, quelles sont les qualités scolographiques de ce Beyond the Reef, alerte aux requins ? Eh bien, l'originalité, c'est insuffisamment acquis. C'est un remake assez fidèle pour toute la partie histoire d'amour polynésienne, donc de Tikoyo et ce requin, auquel on rajoute une petite louche de violence supplémentaire par ses attaques qui lorgnent vraiment sur les dents de la mer. L'histoire est en cours d'acquisition. Ça se suit assez bien, finalement. C'est assez court, assez efficace. L'histoire, donc, comme je le disais, est simple et naturaliste et fait son office. Les personnages insuffisamment acquis, ils sont sympathiques, mais ça joue pas très très bien. Le couple central est charmant. L'acteur principal, d'ailleurs, Dayton Kenney, a été recruté pour son physique de jeune premier alors qu'il était portier dans un club à Waikiki. Et après donc deux films, celui-ci est Hurricane, et quelques émissions de télé aux États-Unis, où il a quand même essentiellement joué les bellâtres polynésiens, et il est retourné à Hawaï, où il serait devenu conducteur de camion poubelle. Et où il aurait vécu bien tranquillement. Il faut aussi parler de Maren Jensen, qui est une bien jolie jeune fille, qui a eu une petite carrière dans Galactica notamment. Et comme ici, en plus, elle est en bikini quasiment tout le temps, c'est un agrément du film qui n'est pas négligeable. Oui, je sais. Réalisation, c'est compliqué, c'est en cours d'acquisition. C'est plutôt fonctionnel, dans la partie qui est à la surface. C'est d'autant plus fonctionnel que ce Frank Clark, qui est censé être le réalisateur, il a fait que ça. Et que je soupçonne fortement que ce Frank Clark n'existe pas, qu'il s'agit probablement d'un réalisateur peut-être italien, qui l'a tourné sous pseudonyme, peut-être pour des histoires de syndicats aux États-Unis. On peut pas tourner des films si on n'est pas dans une guilde de réalisateurs, mais c'est vraiment filmé à la paresseuse, avec certes des beaux paysages, des couchers de soleil, quelques vues d'avion. Là où finalement ça rentre dans l'encours d'acquisition, c'est les scènes sous-marines. Les scènes sous-marines sont chouettes. Elles sont vraiment bien filmées, et là c'est plutôt les deuxième équipes, hein, celle de Ramon Bravo, qui fait du bon travail, et je pense que c'est ça qui fait la petite plus-value du film, et fait qu'on peut lui accorder vraiment une petite chance. L'ambiance, ça reste insuffisamment acquis. C'est charmant, mais il se passe pas grand-chose, d'autant que comme on reprend la plupart des péripéties du premier film, celui de Folco Quilici de 62, si on a vu ce film, on voit tout venir à l'avance, et il n'y a pas beaucoup de surprises. Les requins, enfin, pour moi, ils sont acquis. Les scènes sous-marines sont vraiment chouettes, avec des requins en interaction avec des comédiens, même si c'est pas des très très gros requins, on sait qu'un petit requin-tigre, quand ça vous chope, ça vous lâche plus. Et là, clairement, ça met à l'amende toutes les productions avec des images de synthèse, hein, Zombie Shark, c'est toi que je regarde, qui sont loin de nous offrir le frisson quasi-documentaire de ces rencontres entre un requin dressé, certes, avec un comédien qui joue avec ou qui a des poches de faux sang cachées dans sa combinaison. Franchement, c'est la plus-value. Donc ce qui nous donne un total, si je ne me trompe pas, de 9, auquel je rajouterai un point, parce que j'ai un peu de tendresse pour ce film, qui a été plutôt une assez bonne surprise. Alors, à 10, on reste dans le routinier, mais on est à la moyenne. Alors, vous trouverez peut-être que je suis très indulgent avec ce film, peut-être aussi à cause du fait que c'est un vieux film des années 70, mais franchement, j'ai pas passé un mauvais moment, alors que, au départ, le concept ne me vendait que moyennement du rêve. Donc certes, ça manque un peu de rythme, ça manque un petit peu d'action, mais pour le reste, si vous voulez aller vous replonger dans une aventure polynésienne un petit peu à l'ancienne, avec des jolis paysages un peu délavés, eh bien ma foi, vous n'allez pas forcément passer le pire moment du monde, d'autant que les acteurs, s'ils sont pas très bons, sont au moins charmants. Alors quittons la Polynésie française pour aller en Louisiane, pour nous intéresser à des requins morts-vivants avec le bien nommé Zombie Shark. Welcome to Red Plum Island, where all your dreams come true. There are old stories about how the South would fight off the sharks that the current would bring down. Wait, shark?
There's more than one now.
It could kill just as easily on land as in water. Nowhere on this island is safe.
Dans le vaste marigot des films de requins de série B à petit budget, ceux de Misty Tolley sont loin d'être les pires, sans jamais non plus pouvoir prétendre faire partie des meilleurs, si tant est qu'il y ait des meilleurs. Non, avec elle, on navigue dans une rassurante médiocrité, parcourue ponctuellement d'éclairs de porte-nawakisme suffisant pour lui donner au moins la sensation de sortir brièvement la tête de l'eau pour ensuite repartir se noyer dans le tout venant de la production aussi sec. Mais soyons clairs, Misty, on la connaît bien sur Parade et on l'aime bien, parce que cette Louisianaise, monteuse de formation, n'a, en dehors de quelques cours, été réalisatrice que sur 4 longs métrages, qui sont 4 films de requins. Si ça, c'est pas la marque d'une grande autrice... Ah bah oui, bah quand Scorsese y fait des films de mafia, tout le monde dit que c'est vraiment génial. Quand Misty Tolley, elle fait des films de requins, bah personne n'en parle, à part moi. En 2016, elle nous offre Summer Shark Attack, alias Ozark Shark, qu'on a traité dans l'épisode 21, qui est peut-être son meilleur film, enfin 8,5 sur 20 quand même, hein, c'est l'entrée de gamme du routinier, mais qui nous offrait quelques scènes amusantes lors de son final. Ensuite, en 2017, Mississippi River Shark, épisode 47, qui lui était vraiment fauché, et n'arrivait même pas à nous arracher un sourire, 6,5 sur 20. Et puis enfin en 2018, un Santa Jaws, épisode 29, qui n'arrivait hélas jamais vraiment à concrétiser son projet de requin sapin de Noël, et qui terminait poussivement à 6,5 sur 20. Donc c'est jamais vraiment brillant, mais au moins il y a toujours un bout de concept idiot, ou une ou deux scènes suffisamment débiles pour nous arracher à de la torpeur. C'est dire si j'abordais ce Zombie Shark, son premier film en 2015, avec un niveau d'attente pas exagérément élevé, mais au moins supérieur à ce que j'avais le droit avec les micro-productions habituelles, avec peut-être l'espoir d'avoir deux ou trois trucs à gratter. Alors, nous sommes comme d'habitude en Louisiane, où deux sœurs et leur groupe d'amis se rendent sur l'île de Red Plum pour profiter d'un week-end all-inclusive dans un centre de vacances un peu minable mais pas cher. De toute façon, à partir du moment où l'alcool est gratuit, les vacances sont réussies. Hélas, Red Plum Island, c'est aussi le lieu où l'armée américaine expérimente un de ses projets secrets, comme les affectionne tant les petites séries B sans imagination pour vidéo club.
Je sais que la base a été fermée pendant longtemps et qu'elle vient de rouvrir récemment. Le docteur Diane Palmer a été nommé responsable d'un projet spécial élaboré par le gouvernement.
Un requin tueur zombie? Pas mal.
Non, il y a eu un accident. Le docteur Palmer essayait de trouver un moyen de régénérer les tissus morts ou des organes, pour les soldats blessés au combat. Ils ont utilisé des requins comme cobayes car leur structure interne de base est presque identique à celle des êtres humains. Ils nous ressemblent beaucoup. La base de recherche a été établie ici à cause de la haute présence de requins. Mais il y a eu un problème avec un des requins, Bruce. Il est devenu incontrôlable. Il a tué plusieurs chercheurs. Et il s'est échappé.
Bruce, c'est celui avec le harpon, c'est ça? Le meneur?
Palmer a mis une balise dans l'eau qui émet un signal qui, je ne sais pas comment, déclenche les récepteurs qu'on a placés sur les requins et les attire ici. C'est comme ça qu'ils les ont capturés pour les étudier.
Évidemment, vous vous en doutez bien, ça ne marche pas aussi bien que prévu, et les requins génétiquement modifiés, transformés en zombies, s'échappent de la base secrète et commencent à contaminer toutes les personnes qu'elles mordent et les transforment à leur tour en créatures semi-mort-vivantes et agressives. Ajoutez à ça un ouragan qui se lève et qui vient ravager l'île, moi j'appelle ça des vacances réussies pour le spectateur. Ce Zombie Shark s'inscrit dans la pleine continuité de l'œuvre de Misty Tolley, ou plutôt dans la mise en route du style Misty Tolley. C'est plein d'idées débiles, mais globalement, la plus-value esthétique est assez misérable, les acteurs sont pas très très motivés, et le rythme est tellement en dents de scie qu'on n'arrive pas véritablement à rentrer dans l'histoire. C'est de la prod sci-fi reposant sur un budget qui doit pas atteindre le million de dollars, d'où une absence à la fois d'ambition et de possibilité de concrétiser proprement les idées délirantes du scénar. Au passage d'ailleurs, c'est, semble-t-il, le premier téléfilm sci-fi réalisé par une femme. En tout cas dans la catégorie film de bébête. Pourtant, il y a quelques bons moments ponctuels, avec des personnages complètement idiots, des attaques parfois surprenantes et imaginatives, mais c'est aussi plombé par des phases de parlotte et de drama qui, au lieu de caractériser les personnages, n'apportent pas grand-chose à l'histoire, que ce soit la scientifique de service qui justifie ses recherches pour faire survivre des requins morts-vivants, en parlant de son petit frère soldat mort faute d'un traitement d'urgence sur les scènes de guerre, ou bien bien encore les deux sœurs du groupe qui se chamaillent car la grande veut protéger la petite qui se sent trop couvée, ou les parents qui se font du souci au téléphone, ça sent quand même la scène de remplissage. On s'en fout, on est venu pour voir des requins mort-vivants dévorer des gens. Or s'il y a une première partie, 20 premières minutes, qui mettent un peu du temps à se mettre en place parce qu'on veut caractériser les persos, on veut poser une situation, au bout de 20 minutes, on part après dans des situations furieusement débiles, avec des personnages qui réagissent quand même un peu n'importe comment, comme nos héros qui découvrent un requin mort sur la plage et qui ont l'idée géniale de se prendre en photo avec la tête dans sa gueule. Ça tourne mal. À partir de là, clairement, le film part sur l'idée que ces gens ne méritent pas de vivre. Et donc on va les suivre se faire massacrer dans une franche hilarité. Faut dire que les effets spéciaux sont aussi particulièrement dégueulasses. Non et même pour 2015, c'est pas excusable, encore moins justifiable. On a un mélange de requins en images de synthèse incrustées de façon inqualifiable dans les eaux boueuses et marronâtres du golfe du Mexique. D'autant que Misty Tolley, elle va jouer plutôt la carte de la quantité sur la qualité, et va nous en montrer beaucoup, des requins d'ailleurs qui, n'ayant plus besoin de respirer puisqu'ils sont déjà morts, sont capables de venir sautiller sur la plage pour choper des proies. Le problème c'est que donc quand le film est sorti en 2015, on était déjà donc plus en 2005, et les effets spéciaux, ils sont absolument affreux, les trucs qui changent de forme ou de taille d'un plan à l'autre, ils sont parfois moins bien animés qu'un gif du même nom. Bref, on est une production qui est vraiment fauchée, et c'est dommage parce que ça se joue vraiment sur l'appréciation d'un film qui, s'il avait été un tout petit peu plus soigné esthétiquement, et s'il y avait eu un poil moins de scènes de remplissage de bavardage, aurait pu vraiment être sympa, ou en tout cas rigolo. Parce que il y a quelques idées, voilà, cette tête de requin toute seule qui se met à bouffer les gens, et qui continue à vouloir manger les gens même quand elle est ramenée dans un laboratoire et étudiée et disséquée. Il y a les requins qui vont attaquer sur la plage et qui sont accueillis par une belle ribambelle de rednecks qui vont venir les affronter à la machette, au taille-haie ou à la batte de baseball.
Oh, voilà le topo. Des requins zombies s'intéressent de trop près à notre île. Ouais, des putains de requins. Et quand ils vous mordent, vous devenez des saletés de zombies. Vous avez une minute pour en parler. Terminé! Ce que nous nous apprêtons à faire sur cette plage va nous faire entrer dans l'histoire de l'humanité. Notre île est oubliée du monde depuis trop longtemps. C'est l'occasion ou jamais de montrer au monde entier que nous sommes forts et courageux. Ouais!
Ouais!
Tenez-vous prêts! Parce que ce que nous allons faire sur cette plage aujourd'hui va combler le fossé qui nous sépare et créer une nouvelle humanité! Vous êtes prêts?
Ouais!
Vous avez raison, oui. On va s'en débarrasser. Maintenant, ça suffit. Moi, je viendrai.
Le problème, c'est que ça suit pas derrière en termes d'intendance. La réalisation de Misty Tolley est encore à peu près dynamique, ça sauve un peu l'ensemble, mais on a vraiment du mal avec les faux raccords, avec les scènes qui sont coupées cut parce que voilà, on n'a pas suffisamment de moyens pour montrer tous les effets spéciaux qu'on voudrait. Elle fera mieux après, et c'est dommage parce que ce zombie shark, vraiment à chaque fois on se dit ah ça pourrait. Il y a tout ce qu'il faut pour que on puisse passer un bon moment, pas très intelligent, mais c'est pas ça qu'on demande à un film de requin de ce type. Et à chaque fois on reste un peu sur sa fin parce qu'elle n'arrive pas à concrétiser les idées foutraques qui lui traversent l'esprit.
Diane, écoutez-moi attentivement.
Vous ne devez pas laisser tomber vos recherches.
Nous sommes sur le point d'offrir à l'humanité bien plus qu'un simple médicament. Nous sommes sur le point d'éradiquer les handicaps physiques de la planète. Si vous laissez tomber maintenant, vous allez tout simplement laisser tomber les millions de personnes qui connaissent cette souffrance.
C'est vrai.
Nos résultats sont très loin de ceux qu'on espérait. Mais on peut y arriver.
Richard!
Ah ah
Alors, quelles sont les qualités squalographiques de Zombie Shark, alias Shark Island? L'originalité en cours d'acquisition. C'est peut-être un petit peu le point fort du film, ils essaient un peu tout et n'importe quoi, un peu n'importe comment aussi d'ailleurs, avec cette idée de requins morts-vivants, donc ça permet de les faire sautiller sur la plage, ça permet de les couper en deux et ils continuent à attaquer, et comme en plus ils contaminent les personnes qui mordent, eh bien, voilà, on a quand même même pas mal de petites choses qui, pour 2015, sont encore raisonnablement fraîches. L'histoire, elle, est insuffisamment acquise. C'est pas qu'elle soit particulièrement mauvaise, elle est complètement bateau. Et le problème, c'est qu'on se perd dans des considérations sur les atermoiements des personnages, sur les relations familiales, la grande sœur qui traîne son spleen d'avoir toujours été la mauvaise fille de la famille, la petite sœur qui est un peu trop couvée, qui voudrait pouvoir s'émanciper. Tout ça, en fait, on n'en a pas grand-chose à faire. Surtout que, bon, les personnages sont eux aussi insuffisamment acquis. Alors, les acteurs sont pas super motivés, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire, pour certaines, porter le bikini, ce qu'elles font très bien, et puis, pour le reste, prendre l'air vaguement affolé. Du côté des militaires et des scientifiques, alors là, ils en ont vraiment rien à foutre, ça se voit, mais... Oh là là, j'ai rarement vu des gens qui ont l'air aussi désolés d'être dans un film. L'ambiance, elle est insuffisamment acquise. Bah, c'est là que ça pêche vraiment, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments ponctuellement qui sont drôles, de moments qui marchent, et puis à côté de ça, comme je disais, ça traîne la patte furieusement, et donc on finit par s'ennuyer, par décrocher. Il m'a fallu 3 fois pour finir le film, hein, je vais pas le cacher, alors que globalement il se passe quand même pas mal de choses à l'écran, mais on a vraiment envie de faire autre chose quand on le voit. Le point sera aussi pour la musique d'Andrew Morgan Smith, qui est totalement classique dans ce genre, mais plutôt honnête, et qui peut même s'écouter assez facilement en dehors du film. La réalisation, elle est insuffisamment acquise. Missy Tollet, c'est pas une mauvaise réalisatrice, mais on sent quand même qu'elle a peu de moyens sur ce film, qui doit être fait un peu vite, et elle a même un peu trop d'ambition par rapport à ce qu'elle est capable de pouvoir faire avec le budget qu'elle a. Donc la réalisation joue plus souvent le rôle de cache-misère que de véritable dynamisme dans le film. Voilà, c'est pas très très bon, et donc en termes de réalisation pure, je trouve qu'elle a fait bien mieux après. Et enfin les requins, eh bien eux, ils sont insuffisamment acquis. Or, j'ai pas mis non acquis, malgré le fait que les images de synthèse soient vraiment moches, surtout dans les eaux boueuses des bayous. Comme il y a quelques petits requins en mou, c'est en animatronique, notamment une tête de requin. Bah, c'est moche, mais au moins on essaie de voir plusieurs bestioles, et puis c'est déjà ça, il y a un petit peu de travail, donc... Ce qui nous fait, si je ne me trompe pas, un total de 7, auquel je vais rajouter un petit demi-point pour quelques scènes un peu rigolotes dans l'ensemble. Ça nous donne du 7,5, on est nul, on est aux lisières du routinier. C'est le premier essai de Misty Tollet dans le genre, elle fera peut-être un petit peu mieux par la suite. En tout cas, c'est pas non plus un film pour lequel j'irais me relever la nuit. C'est un petit peu dommage parce qu'il y avait quand même pas mal de potentiel, il y avait un concept qui pouvait marcher, mais on se retrouve avec un film beaucoup trop plan-plan pour pouvoir véritablement susciter l'enthousiasme. C'est de la série B pas complètement malhonnête, mais qui à la manière d'un Toxic Shark par exemple, mais même à la limite d'un Atomic Shark, vaut surtout pour son titre et son affiche, son merchandising un petit peu rigolo. Voilà, mais c'est pas extraordinaire, et c'est pas le meilleur film de Misty Tollet, c'est pas un film de requin qui restera, il faut pas se le cacher. Alors, quels sont les prochains films que nous allons voir dans Shark Parade ? Alors, je prends ma boîte au requin, et je tire... Ah, Sharktopus de Declan O'Brien en 2010. Ah, j'aime bien celui-là, je l'ai même chroniqué sur Nanarland. C'est une production Roger Corman qui est sympathique, avec un requin à tentacules parfaitement idiot. Ça, c'est cool, ça. Et ensuite, nous allons tirer Shark Huntress de John Riggins en 2021. Oh là, c'est un film semi-amateur, tourné au caméscope et qui abuse des plans drones, avec très très peu de requins. Ça, c'est pas très très bien, ça, par contre. Bon, bah, on va faire avec. Alors, une petite recommandation rapide, un nouveau podcast, Cinésaurus, le podcast des films de Dino, qui reprend le concept de Shark Parade, mais avec des dinosaures, et un père et un fils qui vont aborder à chaque fois 3 films de dinosaures, et en parler en passionné, parce que les dinosaures, eh bien, ça réunit toute la famille. Et puis, dans l'introduction, je vous avais parlé d'une soirée spéciale. Ce sera plutôt une après-midi spéciale, car nous allons, avec la bibliothèque André Malraux, 112 rue de Rennes, à Paris, dans le 6e arrondissement, le samedi 28 octobre, de 16h à 18h30, projeter Les Mâchoires Infernales de William Griffith, un film de 1976, très bis, avec un plongeur persuadé d'être le vengeur des requins et qui assassine joyeusement tous les gens qui font du mal à ses amis squales. Un film à la fois assez plaisant pour l'amateur de série B, et en même temps, un film de requin assez frappadingue. Donc je serai là pour vous présenter, il y aura peut-être quelques surprises, on pourra discuter autour de ce film. Donc je vous donne rendez-vous donc à la bibliothèque André Malraux à Paris le 28 octobre à 16h dans le 6e arrondissement. Si vous êtes sur Paris, c'est l'occasion de parfaire votre culture cinématographique et squalesque. Voilà, alors je vous laisse avec les listes de Fabien sur Letterboxd XD, de Quentin sur Sens Critique, qui vous permettent un petit peu de faire le point sur tous les films que nous avons traités. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur X Twitter, j'aimerais jamais me faire à X, donc sous le pseudonyme de The Ultimate Rico, et puis sur Sens Critique, Professeur Rico, je mets un petit peu toutes les dernières choses que j'ai pu visionner, lire et même jouer. Voilà, on se retrouve dans un mois pour aborder de nouveaux films de requins, on se croisera peut-être dans une soirée parisienne. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner. Zombie shark tout tout doudou, zombie shark tout tout doudou, zombie shark tout tout doudou, zombie shark. Zombie shark, pardon.